Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Kofi Ebois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Auditeurs de l'émission Histoire d'ici, bonjour. Je reçois pour vous, pour la seconde fois, M. Mbra Désiré. M. Mbra Désiré est professeur à l'université Alassane Ouattara de Wake. Il a des passages à Abidjan et il a accepté de nous entretenir sur un sujet très important en pays, Sénoufo. Il a précisément travaillé sur les Sénoufo de Férique Sédou. Nous allons parler des origines des Sénoufo.
Bien, je vous remercie papa pour l'occasion que vous me faites de contribuer, je dirais, à vulgariser l'histoire du peuple Sénoufo en Côte d'Ivoire. Et donc, parlant du peuple Sénoufo, comme je le disais, les Sénoufo sont des autochtones en Côte d'Ivoire. Avec le déclin de l'Empire du Mali, une grande majorité du peuple Sénoufo localisé entre le Burkina, le Mali, vont amorcer leur descente en Côte d'Ivoire. Et dans cette descente-là, ils vont transiter par un village qu'on appelle Tenegara, qui est aux environs de Kong. Et donc, ils vont résider là. Et avec le développement du royaume de Kong, les Sénoufo seront sous la domination des Djoula. Ils vont occuper ce qu'on appelle le rôle de Sonangi, autrement dit des guerriers au service du roi de Kong. Et c'est en cela que l'histoire révèle la dextérité des chefs guerriers Sénoufo, dont Nanguin Soro et Felgesi Sulier. Et donc, c'est à partir du royaume de Kong que nous allons assister à la particularisation des différents sous-groupes Sénoufo. Quand je parle de particularisation, il s'agit de l'adoption des noms des différents sous-groupes Sénoufo. Parce que justement, à Kong, on ne savait pas, par exemple, qu'il y avait Timara, qu'il y avait Nafara, qu'il y avait Tagbanan, ainsi de suite. Mais c'est le départ de Kong, le contexte de départ de Kong, qui va soit donner des sobriquets, par exemple les Tiembara. On sait que Nanguin était appelé le Tiebaga, c'est-à-dire le messager. Donc du coup, en parlant de Tiebaga, on dira de Nanguin et de Tiembara que ce sont les hommes du messager. Mais dans le cas de Nyarafolo, quand vous arrivez en territoire Nyarafolo, la tradition orale vous dira que Nyarafolo vient de deux termes. Nyara qui veut dire porc-épic et le folo qui veut dire sortir des trous. Autrement dit, le terme Nyarafolo signifierait sortir des trous du porc-épic. Après recoupement de la tradition orale et des écrits qui existaient ça et là sur Kong, nous avons pu arriver à définir de façon scientifique le nom Nyarafolo qui veut dire les guerriers qui excellaient dans les montagnes. Autrement dit, le groupe de Felgesi était, je dirais, fort dans les combats dans les montagnes. Ce qui fait que, par exemple, lors de leur sortie de Kong, de leur départ de Kong, ils se sont réfugiés dans la région du Mont Nyangbo et attendant que, je dirais, la tempête se calme, un peuple les découvre et qui dit « Ah, ce sont les propriétaires de la montagne Nyangbo ». Donc, ils s'exclament, ils disent « Ah, messieurs là, c'est les propriétaires de la montagne parce qu'on est surpris de les voir descendre la montagne ». Or, eux, ils se sont hébergés, ils se sont réfugiés le temps d'amorcer la descente vers la région de Fekese du Guatemala.
Si je ne me trompe pas, le Nyangbo en question, cela se trouve à l'antenne de la télévision?
Tout à fait. Donc de là, ils adoptent le nom Nyarafolo, qu'on pourrait dire véritablement les guerriers qui excellaient dans les combats en montagne. Parce que de façon scientifique, quand nous élaborons le nom porc-épic, passer dans les trous du porc-épic, nous avons démontré que dans nos thèses, c'est vrai que la tradition orale tend à sauvegarder, je dirais, la bravoure du peuple. Comment est-ce qu'un être humain peut passer à travers les petits trous laissés par le porc-épic? Donc, faisant référence au porc-épic, on montre la dextérité guerrière de ce peuple-là. Donc, pour l'heure, nous retenons que Nyarafolo désigne un peuple qui était courageux, spécialisé dans les combats dans les hauteurs.
Qui avait forcément besoin de Sénoufo de faire que ce duo pour des combats et qui avait besoin d'eux pour à des moments précis, c'est ceux de Congo.
Si, effectivement, c'est le roi de Congo qui avait besoin de Sénoufo pour protéger, sécuriser son royaume.
Ils étaient donc à sa disposition.
Ils étaient entièrement à sa disposition et c'est ce que j'ai dit. On les appelait les Sunangi, autrement dit des guerriers courageux qui ne reculaient devant aucun danger, aucun adversaire. Et donc ils étaient au service du roi de Kong qui avait besoin de sécuriser l'espace puisque, vous l'avez dit tantôt, le Djula c'est le commerce. Et sans stabilité, il n'y a pas de commerce. Donc il était important d'avoir une armée forte et courageuse pour sécuriser la région, pour permettre aux commerçants de pouvoir amorcer leur descente vers Kong et leur remontée vers le Mali actuel.
Et c'est la seule armée que le Kong avait à sa disposition?
Oui, c'est une grande armée, une grande et forte armée composée d'éléments animistes au départ.
Et ils ont livré de nombreuses guerres?
Oui, ils ont livré de nombreuses guerres. Par exemple, vous êtes sans ignorer que, par exemple, Kong a eu à livrer bataille, par exemple, contre les Jimini. Ils ont eu également, pas à batailler, mais à entretenir des relations, je dirais, commerciales avec le royaume du Guyama, notamment de Bondoukou.
Donc, toutes les guerres gagnées par Kong, c'est sous la direction des populations de Ferkesedou.
Bon, pas Ferkesedou, de l'ensemble des guerriers Sénoufo. Voilà, tout à l'heure, j'ai cité Nanguin, Fergesi et consorts, qui étaient véritablement des chefs guerriers.
Nanguin qui est venu de Korogo.
Bon, pas qu'il est venu de Korogo, qui allait créer Korogo. Tout à fait.
Merci beaucoup pour cette précision. Nanguin Soro. Voilà, il est parti créer Korogo. Donc, tout cela, ils habitaient un peu dans un coin qui n'a pas de nom.
Bon, ils habitaient dans les quartiers de Kong, c'était à Kong, parce que récemment, j'avais été invité à participer à une recherche à Kong pour essayer de voir véritablement où, par exemple, l'histoire de Kong. Mais pour l'instant, la tradition orale n'a pas pu nous dire véritablement où, par exemple, les Sénoufo habitaient. Vous savez qu'en son temps, il y avait ce qu'on appelle le culte du Tchefaria, c'est-à-dire le culte de la bravoure. Le roi récompensait les chefs guerriers en les accordant des terres qui étaient mises en valeur par des esclaves. Voilà. Donc, en fait, c'était des amours, puisque le royaume de Kong était subdivisé et chaque subdivision était dirigé par l'un des enfants du roi, notamment les enfants de Sekou Ouattara.
Sekou Ouattara est un roi très puissant. Disons très intelligent, il a su organiser son royaume. Et pour revenir encore à ces Sénoufo qui étaient venus pour supporter le roi de Congo, longtemps d'ailleurs, est-ce que ça s'est bien terminé?
Bon, malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé, parce que mon étude a montré que l'avènement même du roi Sekou Ouattara va créer une cassure entre ces Sénoufo guerriers et le roi. Prenez par exemple le contexte même d'avènement du roi Sekou Ouattara à Congo. Vous savez que son prédécesseur était Lasrik Mamele. Et ce dernier roi était un animiste qui finalement a imposé de lourds tributs aux commerçants. Et vu, je dirais, cela, les commerçants, appuyés par les musulmans, vont ourdir un coup d'État contre Lasrik Mamele et ils vont trouver comme instigateur de ce coup d'État, Sekou Ouattara, qui avec tous ses moyens arrive trônant la volonté d'instaurer l'islam à Congo. Et dès son arrivée en 1710, on assiste à la destruction des bois sacrés. Parce que justement, il faut que l'islam soit là. On décapite la tête du roi Lasrik Mamele qui est piqué au milieu de Kong.
Mamele, ça doit être un albinos.
Tout à fait un albinos, Lasrik Mamele. Et donc, du coup, les Sénoufo se sentent plus en sécurité. Vous savez, qui dit Sénoufo dit bois sacré. Donc, étant attachés à leurs us et coutumes, ils ont vu que l'atmosphère de Kong a changé. Ils ne pouvaient plus rester là. Ils ont donc décidé de partir à partir de 1710.
Ils ont été mal récompensés.
Bon, on pourrait le dire ainsi. On pourrait le dire ainsi puisque, en voulant coûte que coûte que ces guerriers animistes-là adoptent l'islam ou bien le palais Djula, considèrent qu'ils ont été mal récompensés. Me
kamina nyule
Alors, si on veut parler aussi d'origine, les origines de tous ces peuples-là, en fin de compte, c'est de faire que ces Dougou, c'est eux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est de faire que ces Dougou vont s'installer. On a parlé tout à l'heure de la montagne Niambo, ce combat, ils l'ont livré à plusieurs moments. C'est à quel moment ils vont décider de venir créer, faire que ces Dougou?
Notre étude a révélé que c'est à partir de 1710, date d'avènement de Sekou Ouattara au pouvoir Kong. Ils vont décider de quitter pour repartir vers, je dirais, le foyer originaire de Sinoufo, c'est-à-dire vers le nord. Et en partant, ils vont transiter par, comme je l'ai dit, par la montagne du Mont Niangbo, qui s'explique puisque eux étaient excellents spécialistes en matière de guerre sur les hauteurs. Donc ils vont s'isoler là et quelques temps après, ils vont décider de reprendre la route pour aller vers le nord. Et en allant vers le nord, ils sont séduits par l'actuelle région de Ferkessé-Dougou. Voilà, d'aucuns diront que c'est un marabout qui leur a dit que cet endroit spécifique-là fera leur bonheur. Donc du coup, de Niangbo, ils amorcent leur migration en suivant le cours du Bandama. Et ils arrivent dans la région. Ils trouvent que c'est une région qui répond à leurs attentes, tant humaines, tant agricoles. Ils décident donc de s'installer dans la région. Et ils créent le premier village qu'on appelle Felgesika, du nom de leur guide Felgesi Sulué, qui était l'un des guerriers au service du roi Lasirik Bamlé de Kong.
Le marabout, il a raison, parce que plus tard, Ferke va devenir vraiment une belle ville et une ville attrayante.
Bien, Ferke va devenir une ville attrayante, certes, mais il faut faire, je dirais, une précision. Ferkessé-Dougou, la ville de Ferkessé-Dougou actuelle, n'est pas celle qui a été créée par Felgesi. La localité qui a été créée par Felgesi et son groupe à l'arrivée dans la région de Ferkessé-Dougou actuelle, c'est ce village qu'on appelle actuellement Sokoro 1, dont le nom véritable est Felgesi-Ka, le village de Felgesi-Silué.
C'est l'origine, ça?
Tout à fait. Donc, Felgesi-Ka est le premier village de Nyirafolo dans la région actuelle de Ferkessé-Dougou. Et c'est quelques temps après que nous allons voir qu'un autre guerrier du nom de Dombi-Silué qui va donner naissance à la localité de Ferkessé-Dougou. Mais pour aller encore plus loin, Ferkessé-Dougou, c'est vrai, j'ai cité Dombi, mais Ferkessé-Dougou, le nom ne vient pas de Dombi. Parce qu'en fait, il faut savoir que Felgesi-Ka, créé par Felgesi-Sulié, a été détruit en 1894 par le roi du Kénédougou, Babemba. Et lorsque les Français vont arriver dans la région, ils vont demander au chef d'alors de reconstruire les villages. Et du coup, nous sommes en présence de deux localités qui portent le nom de Felgesi, Felkessé. Donc, le chef d'alors, Nawa, décide de dire, bon, l'autre sera l'ancien site qu'on appelle Felgesi-Ka, et là, on appelle Felgesi-Nouveau. Felgesi-Ka Nouveau, qui est devenu Ferkessé-Dougou, qui est l'actuelle ville de Ferkessé-Dougou.
C'est ce nouveau personnage qui est venu semer un peu de trouble. Quel est son objectif?
Bon, vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de guerre. À l'époque moderne, tout empire, tout royaume avait pour ambition d'élargir sa domination dans son voisinage. Vous savez que les travaux qui ont bâti le royaume du Kénédougou avec pour capitale Sikasso avaient besoin d'une main d'œuvre importante pour pouvoir construire leur forteresse. Vous savez que Sikasso, c'était une forte muraille qui a résisté pendant des mois à l'assaut de Samori Touré. Donc il fallait une main d'œuvre nombreuse et servir pour pouvoir construire cela. Donc du coup, les rois de Sikasso vont jeter leur dévolu sur les Sénoufo du sud, notamment les Sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire. Ils vont les dominer, les soumettre. Malheureusement, il y aura des résistances de la part de certains Sénoufo, notamment ceux de Niélé et ceux de Silimakali, qui vont résister farouchement. Nous allons voir par exemple que les Sénoufo de les Tiémara de Niélé seront vaincus par le roi Tiéba Traoré, qui va détruire la localité de Niélé. Et ils vont aller se réfugier à Sinimakiali, où ceux de Sinimakiali, les Nafara, vont résister jusqu'en 1893 à Tiéba Traoré. Malheureusement pour eux, son successeur, son frère Babemba Traoré, qui arrive, décide de laver cet affront. Et c'est lui qui va détruire la région, la ville, la localité de Sinimakiali. Mais la destruction, par exemple, de Felgesika s'explique dans un autre contexte. Je vous ai dit tantôt que les Tiembara de Niélé, après la destruction de leur localité par Tiéba, vont venir se réfugier à Sinimakiali. Et il va se trouver que, à partir de 1889, Tiéba est confronté à une insurrection dans son royaume. Il décide de repartir pour mettre un peu d'ordre et, profitant de cette accalmie-là, les rescapés de Niélé vont aller bâtir une muraille identique, certes en miniature, mais identique à la muraille de Sikasso, qu'on appelle Sordi, qui est encore localisée dans la région de Ouangoloudougou, à mi-chemin entre Ouangoloudougou et Diawala. Ils vont bâtir cette forteresse-là. Et malheureusement pour eux, ils ont bâti cette forteresse pour pouvoir résister à l'éventualité du retour de Babemba. Mais malheureusement, il va arriver un fait assez surprenant. Le roi, le chef d'alors de Sordi, Peyo, est atteint de démence, autrement dit de folie. Un chef qui est incapable de diriger, il faut le remplacer. Et alors éclate une crise de succession entre son neveu, Wairibé Yeo, et l'un de ses chefs guerriers du nom de Baragnéné Ngolo. En principe, c'est le neveu. Malheureusement, nous sommes dans une situation de crise et donc le chef guerrier va vouloir prendre les devants des choses afin de pouvoir résister. Et donc, dans cette crise-là, ils vont finalement se résoudre à faire appel à Babemba, le nouveau roi du Kinédougou. Ce dernier arrive donc dans le nord et fait son entrée aussi facilement que possible à Sordi et il décide de respecter les us et coutumes des Tiembara de Niélé. Et donc, il décide que Wahibé, le neveu du chef Peyo, soit son successeur. Alors, mécontent, Baragnéné Ngolo et ses partisans s'enfuient et vont trouver refuge chez les Nyarafolo de Felgesidougou. Et donc, Babemba, qui est un roi qui ne veut pas qu'il y ait une autre résistance à sa volonté, décide de poursuivre ses mécontents afin de les écraser. D'où la bataille de Babemba contre les Nyarafolo de Felgesika. Et c'est ainsi que Felgesika sera détruit en 1894.
D'accord. Alors, dis donc que la création même de Felgesidougou, ça n'a pas été facile. Hein? Pas à pas, on a découvert que construit, détruit. Mais enfin, Felgesidougou existe aujourd'hui. Alors, cette population aujourd'hui se réclame exactement de quel groupe? La population de Felgesidougou. Ils sont venus du Mali, ils sont venus d'où?
Bon, comme je l'ai dit, ils vous diront tous que les ancêtres descendent du Mali. Le foyer culturel de Sinfo est situé en trois localités, Sikasso, Bougouni et Banfora. Et donc, ils diront que c'est de ce foyer-là que les ancêtres sont descendus. Ils vont transiter par Tenegera, par Kong, avant d'arriver dans la localité actuellement de Felgesidougou. Et donc, ce peuple-là se réclame Sinfo et effectivement font partie du groupe Sinfo puisqu'ils partagent pratiquement les mêmes traits culturels que l'ensemble des autres Sinfo de la Côte d'Ivoire, notamment par exemple le Poro.
On a parlé seulement que des hommes, on n'a pas parlé des femmes. Est-ce que chez les femmes aussi, il y a une cérémonie qui est dédiée aux femmes?
Oui, oui, effectivement. Je vous ai dit tantôt que le Poro, c'est une université. Et dans cette université, comme nos universités qui existent, nous avons des départements qui existent. Et donc, dans le Poro, nous avons des initiations réservées aux femmes. Dans le cadre, par exemple, de Nyarafolo, vous avez vu qu'en 2018, il y a eu la sortie des femmes qui sont initiés au Tchologo. Mais en dehors de cela, nous avons d'autres initiations qui sont réservées uniquement aux femmes. Mais généralement, ce sont les femmes ménopausées.
On n'oublie personne?
Non, on n'oublie personne. Voilà, on n'oublie personne. Le peuple, c'est une fois assez ouvert. C'est vrai que l'homme a le dessus. L'homme occupe une grande place dans la chefferie, mais la place est faite aux femmes. N'oubliez pas que la femme, c'est la matrice de l'humanité. Et le Sénoufo respecte cela.
Sénoufo, l'homme calme, 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 jusqu'à il fait peur. Est-ce que c'est votre impression?
Oui, il faut reconnaître que le Sénoufo, avec tout ce qu'il a traversé comme guerre, je vous ai parlé de la guerre du Kénédougou, également, nous avons par exemple la domination de Samourou Touré qui va venir encore aggraver l'emprise Djoula sur le peuple Sénoufo, et enfin la colonisation française qui va encore assujettir davantage le peuple Sénoufo.
Ce qui fait que dans vos recherches, on revient là-dessus, il y a longtemps on en a parlé. La première partie de l'émission, on a parlé beaucoup de vos recherches. Dans vos recherches, ça n'a pas beaucoup joué dessus. Hein. Vous avez eu tout ce que vous voulez sans problème.
Oui, c'est vrai que avec la tradition orale, on n'arrive pas à cerner pratiquement tous les contours. Comme je vous dis, l'histoire est une science qui évolue. Il va sans dire qu'avec certainement des découvertes, de nouvelles découvertes archéologiques ou bien même linguistiques, on parviendra véritablement à sceller l'histoire de chaque peuple de Côte d'Ivoire, notamment les Sénoufos, le Côte d'Ivoire.
Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vouloir repartir sur un terrain, dans un village ou rencontrer d'autres sages que vous avez déjà rencontrés?
Oui. Dans le cadre, par exemple, de la rédaction de certains de mes articles, je fais toujours appel encore à ces papas qui ont bien voulu, je crois, me confier leurs mémoires. Donc, je profite de votre micro pour les remercier. Et donc, il me revient à chaque fois, en tout cas, l'occasion, quand je le peux, d'aller vers eux pour en savoir davantage. Présentement, même, d'ailleurs, j'ai dû faire, depuis 2014, des enquêtes complémentaires auprès de ces traditionnalistes afin de pouvoir préparer mon livre qui, Les Adieux, puisse sortir en fin d'année, qui va porter exclusivement sur le Tchologo de Fekessédougou.
Bon, la technique a tellement évolué. Nous, à l'époque, on allait avec le Nagara qui fait 10 kilos pour enregistrer. Vous, dans vos démarches au départ pour rencontrer les sages, avec quel matériel?
Bien, vous l'avez si bien dit, papa, la technique a évolué. Quand j'y allais, j'avais mon cahier, mon stylo. Et j'avais également un dictaphone que j'ai pu avoir et qui me permettait d'enregistrer, avec la permission de ces papas-là, d'enregistrer les différents entretiens que nous avons eus.
Et en pays, il nous faut très souvent ces appareils. On peut dire, ça ne rentre pas ici, vous n'avez pas créé ce problème.
Si, effectivement, il y a des personnes qui sont assez réticentes vis-à-vis du dictaphone, ce qui fait que, par devoir scientifique, il est recommandé de demander d'abord l'avis de la personne avant de mettre l'appareil en marche. Si la personne refuse, nous écrivons simplement au cahier. Et si la personne accepte, nous avons le cahier et nous avons le dictaphone.
Vous avez la chance d'être d'une double culture, je dirais. Votre père est Akan et votre mère est Sénoufo. Vous avez bénéficié beaucoup des Sénoufo. Et quand vous allez chez les Sénoufo, en pays Akan, très souvent, c'est le guide qu'on doit présenter d'abord aux sages pour obtenir leur permission. Ou si vous avez leur permission, il faut quand même donner un guide. Chez les Sénoufo, on ne donne rien.
Bon, dire qu'on est dans rien, c'est trop dit, parce que quand on partait voir, par exemple, un chef de village, la moindre des choses que le chef de village puisse faire, c'est d'abord une libation avec de l'eau. Le simple, puisque comme je l'ai dit, le Djoula a tellement agi sur le monde Sénoufo que la plupart de ceux que vous rencontrez disent qu'ils sont musulmans. Donc, au vu de cela, on ne peut pas faire des libations avec de la boisson. Donc, généralement, nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter soit de la cola à offrir aux vieilles personnes, soit un peu d'argent, ou bien même du sucre, ou bien du lait.
Simplement.
Voilà. En tout cas, je ne suis pas passé dans un village, s'il nous faut, où on m'a dit, non, avant de parler, il faut un tel montant. Ça, je n'ai pas encore rencontré cela.
D'accord, vous voyez qu'on tend vers la fin de cette émission. Monsieur Mbran Désiré, je suis très content de tous ces renseignements que vous nous avez donnés, vous nous avez permis d'écouter. Je sais qu'à la troisième ou à la quatrième, à la cinquième rencontre, vous allez nous donner plus d'informations encore concernant les Sénoufo de Fekessédougou. On a beaucoup évolué, on a beaucoup parlé de ces Sénoufos-là, des gens, un peuple formidable, ça il faut le dire, qu'ils soient de Fekessédougou, de Korogo, de Korgo ou de Bundiali, Pindiali, vraiment ce sont des gens sympathiques. c'est des gens sympathiques. Moi, j'ai dormi dans tous ces villages-là. C'était des villages, aujourd'hui des sous-préfectures, des départements. Alors, ils sont formidables.
Et je confirme cela, papa, parce que justement, les Sinfo sont un peuple laborieux, très courageux, qui a pour vocation essentielle l'agriculture. Quand vous regardez, par exemple, la terre dans le nord de la Côte d'Ivoire, la terre est dure, elle est aride. Mais ces Sinfo qui sont braves, sont courbés en dépit du soleil pour faire mûrir la terre. Et comme la terre n'est pas ingrate, la terre leur fournit, récompense leurs efforts pendant de longs mois d'abeur et de sacrifices pour les nourrir. Donc le peuple Sinfo, c'est véritablement un peuple assez courageux, assez, je dirais, conservateur et je dirais un peuple assez ouvert.
On aura l'occasion de vous rencontrer pour la troisième partie de cette émission. Vous allez nous parler peut-être de cette cérémonie encore de Tchologo, les dispositions qu'il faut prendre pour aborder le Tchologo. Et puis le Tchologo, il y a des endroits qui sont réservés pour accueillir les initiés. Alors, vous allez nous donner beaucoup plus de détails dans la prochaine émission. Je voudrais vous remercier pour cet effort que vous faites sans document du tout. Vous êtes venu de Boaké, et sans papier. Vous avez fait l'effort de nous parler, de nous dire ce que vous savez. Et ça a été bien dit, je crois, bien enregistré et bien pris aussi. Alors, professeur, quel est le dernier mot que vous allez dire pour cette partie de l'émission que nous venons de réaliser concernant les origines des Sinfo de Ferkesidou?
Bien, je vous remercie, papa. Le peuple Nyirafolo, c'est un peuple qui est assez courageux et assoiffé de son indépendance, qui, au vu des circonstances de Congo, a pu créer son environnement actuel que nous connaissons dans la région de Ferkesidougou.
Merci beaucoup. Et l'histoire, elle est dans de bonnes mains. Merci, M. Mbra Désiré. À la prochaine.
Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffi et Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.